France Inter.
Bonjour à tous, c'est Denis Chessou. Parole de Piaf, c'est un podcast en 6 épisodes. Il est beau et en plus, il nous fait un petit signe.
En parfait chauvin que nous sommes, on peut vraiment dire que le Léman, c'est le lac du cygne. Parce qu'il est tellement emblématique de ce lieu et puis c'est vraiment devenu une icône ici autour de ce lac. Et puis là aujourd'hui on voit la rive d'en face, mais souvent quand le temps n'est pas aussi beau qu'aujourd'hui, on voit pas la rive d'en face, on a l'impression qu'on est face à la mer.
Le lac du Cygne, à la fois une exposition et un formidable livre aux éditions Glénat. Pourquoi aller en Suisse? Des cygnes, il y en a partout, me direz-vous. Annecy, le bois de Vincennes, le parc de Sceaux, ouais. Mais il y a le Léman. D'ailleurs, quand on dit le Léman, on est un peu dans le pléonasme, quand on dit le lac Léman, pardon, parce qu'on ne le sait pas, mais le Léman, ça veut dire le lac à l'origine. Alors, un Léman sans cygne, notre imaginaire serait sûrement atrophié. Nous sommes face à une petite mer sans marée, 72 km de longueur, un bel arc de cercle. Nous sommes à Nyon, entre Genève et Lausanne, canton de Vaud, où nos protestants du Royaume de France, un peu malmenés à l'époque, sont venus se réfugier. Face à nous, la rive française, à quelques kilomètres, vous avez le Chablais, le délicieux village d'Ivoire, Thonon, plus loin, et puis le Mont Blanc. Donc un très joli bureau pour Lionel Gauthier, qui est à la fois géographe et conservateur de ce musée du Léman. Alors, qui est vraiment un chroniqueur du Léman, c'est-à-dire ce musée, on parle de pêche, de tourisme, de tsunami, de tous les sujets. Et donc, il y a cette exposition actuellement, Le Lac du Cygne, et puis donc ce livre aux éditions Glénat, qui a le même titre, avec une très très belle iconographie. Il faisait beau, je suis arrivé entre deux votations, un Parisien chercherait en vain des papiers et des canettes par terre pour se sentir mieux. Eh ben non, il n'y en a quasiment pas. Nyon, petit port au cygne, qui faisait barboter leur beauté ce jour-là, à la découverte de cet illustre inconnu sur le Lac des Cygnes, avec Anne-Sophie Deville et Lionel Gauthier.
Il a été beaucoup peint par les artistes, notamment effectivement grâce à sa place dans la mythologie, puisqu'il y a plusieurs légendes dans lesquelles le cygne apparaît, comme Leda et le cygne, où le cygne en fait est Zeus qui se transforme pour séduire Leda, la reine de Sparte. Ouais. Et puis aussi la fameuse légende de Lohengrin avec le chevalier au cygne qui arrive comme ça sur une nacelle tirée par un cygne pour sauver une jeune femme en détresse.
Alors, il arrive assez récemment ici, quoi. C'est le 19e siècle hein.
Tout début du 19e siècle, on sait qu'il y a des cygnes qui sont achetés par la ville de Genève en 1837 et qu'elle en reçoit ensuite en 1839 d'un prince allemand en cadeau. Mais on a trois autres documents plus anciens qui sembleraient attester la présence des cygnes dès 1802.
Mais chez nous quand même, le cher Louis XIV qui adorait cet animal-là et se disait c'est formidable, on va en mettre sur la scène, on va embellir la scène avec les cygnes, il avait fait un peu le boulot avant quand même.
Absolument. Alors Louis XIV et d'autres, notamment les monarques anglais, puisqu'il y a des cygnes qui sont dans les cours royales de toute l'Europe à partir du XIIe siècle, je crois. Mais nous ici, on n'a pas droit, donc on a été un peu plus tardif.
Mais quand même, vous en avez refilé aux autres. C'est-à-dire que la ville de Genève, elle a pratiqué non pas la diplomatie du panda, mais la diplomatie du cygne.
Eh oui, énormément. À partir de 1857, la ville de Genève donne des cygnes à la ville d'Annecy. Alors en deux fois, parce que les deux premiers qui sont arrivés, ils sont zigouillés tout de suite par des chasseurs du coin. Donc ils doivent renvoyer un deuxième couple quelques mois plus tard. Mais après, ça va vraiment se développer pendant plus d'un siècle. Et Genève va envoyer des cygnes jusqu'au Japon, jusqu'en Iran, jusqu'en Birmanie, au Sri Lanka, etc.
Sans bruit, sous le miroir des lacs profonds et calmes, le cygne chasse l'onde avec ses larges palmes et glisse.
Alors là, on en a quand même quelques-uns. Il va y avoir deux couples. Là, on en voit quatre. Anne-Sophie Deville, moi je suis ravi parce que vous soyez là, parce que vous êtes une femme qui, évidemment, est docteur en écologie. Donc, vous connaissez très très bien la Tour du Vala. Vous êtes aussi documentariste et vous êtes intéressée à cet animal. Là, cet animal-là, en fait, il a été peu étudié. Ça n'intéressait pas tellement les ornithologues.
Non, alors c'est vrai, parce que c'est un oiseau qui est importé. Donc en fait, les signes qu'on a ici sur le Léman et sur plein d'autres endroits sont en fait des signes qui étaient à l'origine semi-domestiques ou même domestiques. Ouais. Donc il y a le cygne tuberculé sauvage, qui est une population de cygnes qui va de manière sporadique de la mer Caspienne jusqu'à la Chine. Donc là, on a vraiment des populations sauvages, mais les cygnes qu'on a ici, on les a vraiment implantés artificiellement, en fait.
On a combien de marques de cygnes? Je crois qu'il y en a 6, non?
Oui, alors il y a 6 espèces. Ici, on voit surtout le cygne tuberculé. Donc le tubercule, c'est un repli charnu, un repli de peau noire, d'où son nom. Donc c'est celui qu'on voit le plus, qu'on connaît le plus. Il y a d'autres cygnes un peu plus discrets, alors qui, pour le coup, sont vraiment, vraiment sauvages. Là, c'est le cygne chanteur, le cygne de Bewick, qui sont des très, très jolis cygnes, très fins, que les ornithologues préfèrent, je vais dire plutôt. Et puis, côté Amérique, on a du coup le cygne à cou noir, qui est donc le plus gros oiseau d'eau sur le continent sud-américain, le cygne trompette et le cygne siffleur.
Siffleur, oui, d'accord. Alors, quelques mots quand même sur le cygne noir. On n'en a pas ici.
On n'en a pas, on en a eu. De temps en temps, il y en a qui se baladent, mais ce sont des cygnes qui se sont échappés en réalité. Et on n'a jamais vraiment réussi à implanter le cygne noir en Europe. Hein. C'est un cygne qui vient d'Australie. On pense qu'une des hypothèses, ce serait le fait qu'il il craint un petit peu le froid. Mais c'est un oiseau qui est magnifique. Et la petite anecdote, si vous avez la curiosité de regarder sur Internet, vous allez voir qu'il a des plumes en forme de copeaux de chocolat sur le dos. Et ça, c'est signe de bonne qualité individuelle. Voilà, un cygne noir qui a vraiment ses petits copeaux de chocolat sur le dos, ses plumes qui font des petites frisouilles, eh bien, c'est un signe qui a de bons gènes.
Oui, bien sûr. Et chocolat suisse.
Exactement, oui.
Ah oui, sinon, c'est pas drôle. Oui, mais alors, l'avantage, Lionel Duvaute, c'est justement, c'est qu'il est discret.
Absolument. À cause de sa trachée, visiblement, il n'arrive pas à produire des sons. Donc en fait, il ne dérange pas les riverains, on le trouve très beau, et puis il ne dérange pas, contrairement justement aux cygnes chanteurs, qui eux sont très bruyants et ont souvent fait l'objet de pétitions autour du lac, des clients d'hôtels et des gens qui habitaient dans les quartiers pour qu'on les enlève.
Ah, c'est très joli parce qu'on a un bateau donc, qui a effectué cette traversée depuis la France. À côté, pas très loin d'ailleurs, nos cygnes, bon, qui nous regardent, voilà, bon, ils sont riches, je sais pas combien ils voient de touristes et de passants donc ici tous les jours. Notre cygne, donc ici tuberculé, c'est celui que l'on connaît véritablement, je crois qu'il y a une population à peu près de 600, 650 000 aujourd'hui un peu partout en Europe. Hein,
Dans le monde, ouais, on sait pas exactement, mais il y en a entre 500 000 et 1 million, donc vous voyez.
Alors on voit bien ce tubercule là qui est noir, et en fait sa peau est noire.
Oui, c'est ça, en fait, il a donc ce plumage blanc immaculé et en fait la peau noire qui est donc trahie par ce tubercule noir. Et un des symboles du cygne, ce serait un peu le pêcheur, l'homme qui fait des péchés et qui du coup cache ses péchés sous ce plumage blanc immaculé.
Oh non !
Qui est-ce ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est lui !
Qui donc ?
Oh, il m'a jeté un sort !
Pourquoi ?
Juliette !
Il ne me fait pas peur, je vais...
Non ! Il a de grands pouvoirs, tu dois t'enfuir.
Alors je t'emmène avec moi.
Je ne peux pas. Quand la lune disparaîtra, je redeviendrai un cygne. Je t'en prie, fais-moi confiance, Arthur. Va-t'en.
Il y a sûrement un moyen de briser ce maléfice.
Oh, il y en a un.
Bon, il est herbivore celui-là, donc il se nourrit pas de poissons, très peu, enfin quasiment pas. Donc.
Oui, alors ça doit participer aussi au fait qu'il est largement accepté, parce que c'est pas du tout un concurrent des pêcheurs. Et donc il est à 95% herbivore, effectivement.
Ouais. Alors, s'il est herbivore, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de quantité énergétique dans ce qu'il mange. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de la journée de manger?
Alors, comme tous les herbivores, en fait, il passe trois quarts de son temps, peut-être la tête sous l'eau, à se nourrir, puisque l'herbe, les macrophytes, hein, on croit souvent que ce sont des algues, hein, mais c'est bien des plantes aquatiques, sont faiblement énergétiques. Donc en fait, il faut qu'ils mangent beaucoup pour combler ses besoins.
Parlons quand même de ce cou, parce qu'évidemment qu'il a une fonction, celui-là. Ça lui permet de ne pas utiliser trop d'énergie.
Oui, alors ça fait aussi partie de son succès, hein, probablement. C'est-à-dire que le cygne, il n'a pas besoin de plonger comme des canards plongeurs qui vont aussi se nourrir de la même nourriture, c'est-à-dire de plantes aquatiques. Il peut rester à la surface, plonger, basculer en avant et donc allonger son cou qui peut être très très long, jusqu'à 80 cm parfois, et donc se nourrir comme ça. Alors que les oiseaux, d'autres canards en fait, qui vont se nourrir des macrophytes aussi, vont devoir plonger, battre des pattes, ça demande beaucoup plus d'énergie.
Est-ce qu'il a eu de la concurrence? Parce qu'en fait, il se porte plutôt pas mal ici. On disait, il y en a 500, 600 à peu près, mais il n'y a pas trop de concurrence.
Non, c'est un oiseau qui du coup utilise une ressource alimentaire qui est voilà, il y a énormément à manger pour lui. Il occupe une niche écologique qui était presque vacante parce qu'il arrive à, tout en restant à la surface à se nourrir. Il n'a pas vraiment de concurrents, il s'entend très bien avec les autres espèces d'oiseaux et c'est ce qui fait aussi qu'il a été accepté, il n'a pas évincé une autre espèce.
Lionel, là je regarde, bon, votre commune est assez délicieuse, mais enfin, c'est urbanisé comme partout, alors plus ou moins, mais c'est quand même gentiment urbanisé. Comment on fait quand on est un cygne? Parce qu'on n'a pas tellement envie d'aller dormir dans la cour ou bien dans le jardin du voisin, quoi.
Eh bien, c'est vrai que le Léman est un lac très urbanisé, surtout du côté suisse. Et c'est une des raisons qu'on met en avant pour expliquer le fait que les effectifs baissent quand même. Parce que dans les années 80, on est vraiment arrivé au pic de la population des cygnes. Et depuis, en presque 40 ans, on en a perdu presque la moitié.
Donc il lui faut quand même quoi, des petites roselières ou simplement des petits bouts de prairie?
Il lui faut de la place et du calme. On calcule qu'il lui faut à peu près 1 km de rive pour pouvoir se reproduire. Donc voilà, effectivement, donc sur un lac qui est déjà limité, si en plus on rajoute les promeneurs, les chiens, les infrastructures, c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de place pour lui.
Là, regardez, il est en train d'ouvrir ses ailes. Lorsqu'il ouvre ses ailes, je ne connais pas l'envergure du cygne, qu'est-ce que c'est?
C'est dans les 2 mètres, donc c'est quand même un oiseau qui est très imposant, qui est assez lourd, hein, il fait dans les 10 kilos, 12 kilos.
Vas-y, continue, ouvre. Non, il veut pas aller jusqu'au bout,
c'est un des oiseaux les plus lourds au monde capables de voler.
Et quand il ouvre ses ailes, quand même, comme ça, quelle est la signification?
Alors, il y a plusieurs postures. Il peut, c'est vrai qu'il y a cette cérémonie, on appelle ça la posture, la cérémonie du triomphe, que tout le monde connaît, où il a les ailes un petit peu écartées sur le dos, qui est très très belle, très majestueuse. Et donc ça, c'est une des postures pendant les paranuptiales, pour se choisir le mâle et la femelle, hein, danse, entre guillemets. Puis après, il y a les postures vraiment d'agressivité, le cou un petit peu en S, comme ça, on a l'impression qu'il va passer à l'attaque, qui est impressionnante et qui est destinée, du coup, à impressionner, effectivement, les concurrents, les autres cygnes, pour pas qu'ils viennent sur ce territoire.
On dit quand même qu'il a un fichu caractère. Alors là, je sais que je suis en plein anthropomorphisme, mais quand même, quoi, c'est pas un animal, on n'a pas envie de se faire pincer par son bec. Qu'est-ce qu'on peut dire de son caractère?
Eh bien, on peut dire qu'il est ombrageux.
Ombrageux, j'aime bien. Tu es ombrageux. Voilà.
Mais en même temps, c'est quand même un animal qu'on peut approcher de très près. Donc, essayons d'imaginer les mêmes situations avec d'autres types d'animaux sauvages et je pense qu'on sera encore moins bien reçus que par le cygne.
Il aime ça, Sophie, le pain, ou faut pas trop lui en donner? Enfin,
alors, en fait, honnêtement, il n'y a pas... la littérature est vraiment... elle tranche pas sur le fait que ce soit vraiment mauvais. Je pense que c'est vraiment une question de quantité. Donc c'est de toute façon un aliment industriel qui n'est pas adapté à la faune sauvage. Et donc il vaut mieux préférer les légumes, les graines, que le pain en quantité.
Le cygne est le cuisinier. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour roison le cygne et, le tenant au cou, il allait l'égorger, puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage.
Évidemment, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais on parle du fameux chant du cygne, donc qui chanterait fort, qui chanterait longtemps, donc avant sa mort, qu'est-ce que l'on peut dire?
On peut dire que c'est une légende, en tout cas pour le cygne tuberculé qui, comme disait Lionel, n'a pas de voix, parce que alors les oiseaux n'ont pas de cordes vocales, hein, ils ont un autre système pour chanter, une autre anatomie, mais le cygne, il a une trachée tellement courte que ça ne lui permet pas de faire caisse de résonance, le cygne tuberculé, alors que ses cousins, le cygne chanteur par exemple, a une très longue trachée qui permet vraiment de faire caisse de résonance comme un instrument de musique.
Le cuisinier fut fort surpris et vit bien qu'il s'était mépris.
« Quoi? Je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe ?»
Alors on a pu le prouver, ça, donc ce fameux chant du cygne pour les autres cygnes.
Eh bien, je pense que la faute revient à Ésope et à La Fontaine, puisque c'est les deux qui, dans leur fable, ont développé cette idée du chant du cygne. Alors, où Ésope a été chercher cette idée, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est rentré comme une idée que tout le monde a, et puis une expression.
Cela dit, c'est pas mal.
C'est super, et puis effectivement, c'est une belle expression, le chant du cygne.
Alors, cet animal, quand même, est aussi totalement relié à la danse. Et on peut le comprendre lorsqu'on le voit, donc, toute la grâce qu'il y a. Donc, il palme, là, doucement, gentiment, il n'a pas besoin de s'affoler, mais c'est extrêmement délicat, c'est extrêmement gracieux. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a inspiré des chorégraphes.
Oui, il a un côté très, très graphique. Donc à nouveau, il y a ce côté blanc immaculé et il y a ce côté très élancé avec ce très long cou. Hein. C'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, il a 23 vertèbres cervicales, ce qui est un record. Il n'y a aucun animal qui a autant de vertèbres cervicales ou plus. Vous et moi, on n'en a que 7. Il a une présence qui voilà, il est quand même imposant malgré tout. Il a ce côté un peu face cachée parce qu'il a plein de côtés très positifs, plein de symboliques très positives. Mais il y a ce côté peau noire, il y a ce côté un peu agressif. Donc il y a vraiment une face cachée du cygne qui est extrêmement intéressante à scruter, à essayer de comprendre. Et puis on peut faire le parallèle avec nous quelque part, voilà, où on essaie de se montrer sous notre plus beau jour. Mais il y a toujours une petite face cachée peut-être.
Donc votre os cervical, et ça c'est très bien parce qu'il n'a pas besoin d'ostéopathe, tout va très bien pour lui. Mais si on parle de la métamorphose, là aussi c'est intéressant.
Bah, c'est effectivement assez fascinant, et puis là de nouveau on revient aux auteurs et à Anderson et au vilain petit canard qui tout d'un coup devient un cygne majestueux. Et c'est vrai que je ne suis pas un zoologiste, mais est-ce qu'il y a énormément d'animaux sur la planète qui ont une telle métamorphose de cette espèce de petit gringalet en magnifique oiseau majestueux?
Nous sommes toujours face au lac Léman, nous sommes à Nyon, dans le canton de Vaud, et le cygne donc attire les artistes. Et oui, il a été peint par Vinci, Véronèse, Michel-Ange, Cézanne, Dali, Gauguin, et même Hergé, Tintin et Milou, si, si.
Le cygne, le duvet de ses flancs est pareil à des neiges d'avril qui croulent au soleil. Mais, ferme et d'un blanc mat, vibrant sous le zéphyr, sa grande aile l'entraîne ainsi qu'un lent navire.
Je vois une tache blanche sous le ponton qui amène au bateau de la CGN.
Oh bah oui.
C'est encore une fois la preuve que voilà, il suffit d'une grosse tache blanche et on sait que c'est lui quoi.
Je peux même dire que c'est Marcel, je crois.
Ah bah oui, oui, parce que donc vous avez, ils ont, oui, d'accord, ils ont quand même leur prénom chacun. Donc quand on visite votre exposition, donc dans ce musée du Léman, là on se rend compte, et on s'en doute bien, c'était un peu comme le flamant rose en Camargue, vous l'avez partout, même à l'entrée des boîtes de nuit, le cygne il est partout. Hein. Alors bon, les cartes postales évidemment, il est sur les mugs, il est sur des affiches d'hommes politiques aussi.
Oui, alors c'est aussi ça qui faisait l'intérêt de cet oiseau pour une exposition, c'est que c'est vraiment une icône et qu'on va retrouver sur les affiches touristiques, sur les affiches politiques, sur les affiches évidemment pour la protection de l'environnement, et puis après bah alors dans tout un tas de bibelots et de babioles.
Très kitschissime.
Oui, c'est un peu le principe, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte, en fait on a fait un appel au public de ouais. Nous dire amenez-nous un cygne que vous avez chez vous. Et mettez votre grain de cygne dans notre exposition. Et que, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont un cygne chez eux, que ce soit une salière, une bougie, un vase. Et ça fait vraiment partie des animaux les plus représentés en fait en objet.
Lionel Gauthier, il y a eu ou il y a peut-être encore un gardien de cygne sur Genève, je crois.
Oui, c'est une fonction qui a existé pendant presque un siècle. Une personne qui était vraiment responsable de la santé des cygnes de Genève, qui les nourrissait, qui les protégeait, les mettait à l'abri pendant l'hiver. Et donc j'ai retrouvé le nom d'au moins 4 gardiens qui se sont succédés.
Mais quand même, il a été chassé quand même ce cygne, on en parlait là.
Alors, sur le Léman, a priori très peu. Surtout parce que c'est le premier oiseau qui a été protégé. Genève achète des coupes de cygnes en 1837 et en reçoit en 1839. Et déjà en 1839, il promulgue une loi pour les protéger. Et puis après, au niveau suisse, c'est en 1875 qu'il y a une loi où c'est le premier oiseau d'eau protégé en Suisse. Donc ce qui est fou, en fait, c'est qu'un oiseau venu d'ailleurs est le premier oiseau à être protégé. Après, on sait que la population de cygnes a baissé de 47% pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc probablement que...
Ils sont partis à la guerre, non ?
Je pense qu'ils sont passés dans les casseroles.
Ah. Eh oui, parce que quel goût ça a, le cygne ? Voilà, une émission plutôt à l'honneur des animaux, et après ça se termine par la casserole. Ah, qu'est-ce qu'on entend ? Un petit foulque peut-être, Anne-Sophie ?
Oui. Oui, alors là on est en plein hiver, donc on a quand même pas mal d'oiseaux qui viennent aussi se rassembler dans des endroits comme ça, un petit peu calmes. L'eau est calme, c'est parfait pour eux dans les ports. Donc des foulques, des...
Ah oui, là-bas il y a une petite colonie là.
Oui.
Vous avez le petit port donc avec plein de bateaux évidemment qui ne sont pas utilisés, c'est normal.
Les fulgules aussi, on a énormément. Et en fait, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui ont proliféré, on pense, ces dernières années avec l'arrivée de la moule zébrée.
Ça veut dire que donc c'est leur garde-manger quoi.
Oui, exactement. Donc, parfois, l'arrivée d'une espèce invasive peut avoir du bon, quelque part.
Tiens, on se retourne. Allez, ceux-là, on les a partout, évidemment. Alors, eux, ce ne sont pas les copains des pêcheurs, ce sont les cormorants, ça. Vous les connaissez bien aussi, ceux-là.
Oui, alors les grands cormorants, c'est vrai qu'on peut mettre en relation, en parallèle, notre lien aux grands cormorants et notre lien au cygne tuberculé. Le cygne tuberculé qu'on vénère alors qu'il n'est pas d'ici à l'origine et qu'il est arrivé tardivement sur le Léman, alors qu'on a en face son oiseau noir, le grand cormorant, qui lui a toute sa place sur le Léman, qui a été exterminé, qui a été ensuite protégé dans les années 70 et qui est revenu en force. C'est vrai, la population a augmenté. Et c'est un petit peu la bête noire des pêcheurs, hein, ce qu'on peut comprendre. Et donc, personne n'aurait eu l'idée de mettre sur un piédestal le cormoran, alors qu'il est originaire d'ici. Donc,
vous le connaissez bien. Et là, il fait une parade du tout. Non, il sèche ses ailes, là. Parce que là, il les ouvre. Alors, on est à la bonne distance. Hein, on est à peu près une cinquantaine de mètres, donc ça tout va bien pour lui. Mais c'est ça, donc il ouvre ses ailes.
Oui, et pendant longtemps, on a cru qu'il ouvrait ses ailes pour sécher uniquement. Et on s'est aperçu qu'il y avait des grands cormorants qui avaient toujours les ailes ouvertes et qui pourtant avaient les plumes totalement sèches. Donc en fait, il y a d'autres fonctions. Il y a le fait que ça lui permet de digérer le poisson. Quand il ouvre ses ailes, il expose son ventre au soleil et donc ça lui permet d'activer ses fonctions digestives. Et plus il reste longtemps les ailes ouvertes, plus il montre aussi aux copains que c'est un bon individu parce qu'il a réussi à pêcher un gros poisson puisqu'il met du temps aussi à digérer.
Ok, donc c'est moi le plus fort.
Il y a un petit peu de ça.
Ah, ça y est, il repart. Alors, certes, il y a à peu près 60% de ce lac qui est suisse, et donc 40% donc qui est français, avec un chouïa près, c'est à peu près ça, donc la proportion. Et cette notion de bien commun, donc, parce qu'on peut se dire, bah, l'eau, elle appartient à qui? Enfin voilà, elle appartient à tout le monde.
Oui, et puis c'est un lac donc international, transfrontalier, avec la particularité d'avoir la frontière qui passe au milieu du lac, ce qui est assez ridicule, parce qu'effectivement, à part sur les cartes, on ne la voit pas, parce qu'il y a d'autres lacs où la frontière est sur les rives, donc les eaux sont internationales. Ici, vraiment, les eaux sont nationales, au milieu, ça se sépare. Et effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes, parce qu'à chaque fois qu'on veut mettre en place des mesures pour protéger une espèce, pour protéger l'eau, eh bien, il faut se mettre d'accord entre deux pays. Et puis en plus, après, il y a encore les différentes entités administratives du côté suisse qui chacune ont leur pouvoir. Donc c'est pas simple. Mais dans les années 60, a été créée la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, qui, en mettant ensemble les Suisses et les Français, a permis de résoudre la question des phosphates dans l'eau. Et c'est un succès extrêmement important et fantastique d'avoir pu se mettre autour de la table pour le bien commun.
Avant de laisser nos cygnes qui nous tournent le dos, ah, ils ont bien raison, là. Vous me montriez du doigt un point qui est peut-être à quelques kilomètres d'ici, Lionel.
Oui, c'est l'endroit où Tintin et Haddock tombent dans le lac avec une voiture parce qu'ils sont poussés par les méchants dans l'affaire Tournesol, donc de Hergé. Hergé donc a fait cet album en venant in situ. C'est la première fois qu'il dessine in situ, sinon avant il dessinait avec des photos, avec des informations qu'on lui envoyait. Et là il a fait vraiment la route tout au bord du lac entre Genève et Nyon pour trouver l'endroit où la voiture pourrait tomber. Et donc il a dessiné exactement le lieu.
Le chauffeur, Milou. Oh non.
Et puis une fois que l'accident se passe, eh bien c'est un cygne qui vient repêcher Milou.
Ah oui, c'est ça, d'accord. Et donc là, le cygne est sauveteur de Milou.
Je n'ai pas vu Milou.
Le cygne est sauveteur de Milou, mais malheureusement Milou est un peu ingrat parce qu'il n'apprécie pas trop le bec du cygne sur sa queue.
Et là, on va se quitter avec un tout petit bout de beauté du monde avec plein de nuances de bleu.
Alors il faudrait dire la beauté sur la terre, puisque c'est le titre d'un livre de Ramu qui se passe au bord du lac.
Exact. Et avec quand même, les peintres sont toujours aussi intéressés aux différentes couleurs de ce lac.
Oui, et souvent les artistes disent que ce lac, il est tout le temps changeant, tout le temps différent. Il a même des couleurs qui changent avec la journée, avec les saisons. Et donc, un peintre comme Ferdinand Hodler a passé sa vie à le peindre sans jamais s'ennuyer.
Et on va souhaiter aussi donc un bon vol à nos cygnes.
Oui, et à tous les autres oiseaux du lac.
Parole de Piaf est un podcast en 6 épisodes à réécouter quand vous voulez. Et en attendant, envolez-vous.